Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Les musiciens russes en exil.
Je suis comme cette pomme, coupée en deux. Ma première moitié est ici, ma deuxième moitié est là-bas. Dès que je l'aurai retrouvée, je pourrai terminer mon concerto. Et alors, je redeviendrai un fruit complet.
Prokofiev, vu par Claude Chabrol. Prokofiev, il avait fait le choix délibéré de quitter l'URSS dès 1918, alors que les bolcheviks au pouvoir lui manifestaient de la bienveillance. Il allait et venait, en Europe, en Amérique, sa femme adorait Paris, mais lui répétait « Je suis une pomme coupée en deux, une partie de moi est restée là-bas ». Et il va tenter un voyage, deux voyages en URSS et s'y fixer définitivement. Il le paiera assez cher et sa femme bien davantage. Sans doute Prokofiev considérait-il comme un anachronisme vivant son aîné, Rachmaninov. Celui-ci se tint sur une ligne plus constante. Il n'était pas question pour lui de frayer en quoi que ce fût avec le régime communiste. Pourtant, il soutenait que la musique d'un compositeur ne pouvait se séparer du pays où il était né. Lui aussi paiera le prix fort, mais ce sera à cause de son déracinement. Il vivra confortablement, mais ses compositions se raréfieront. Exil des musiciens russes à l'extérieur, qui leur noue la gorge. Exil à l'intérieur, qui fait qu'on ne les entend même plus à 10 pas. Qui dit que la musique est le moyen d'expression privilégié de la douleur de la perte? Il est cependant un Russe qui va traverser l'adversité en donnant l'impression de s'en jouer. C'est Stravinsky. C'est à peine s'il parle de 1917 dans ses mémoires, il veut donner l'impression que sa musique est un monde si nouveau que c'est lui seul qui doit être désiré. Embarquement pour un monde nouveau, exil, ce sont les thèmes de La folle journée qui commence à Nantes.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et où on parlera beaucoup, j'imagine, de votre livre, Étienne Barillier, bonjour.
Bonjour.
C'est un livre dans l'excellente série musique des éditions Fayard, intitulé « Musique et exil ». Alors quand vous réfléchissez à la question, vous vous dites que un moment, longtemps, l'exil n'était pas nécessairement considéré comme un malheur par les artistes. Il est considéré comme un malheur à mesure que l'idée de nation monte.
Exactement. On peut dire qu'au XVIIIe siècle, un Handel, par exemple, devient anglais avec une grande aisance et porte la musique anglaise à lui tout seul. Et alors qu'Handel est allemand, comme chacun sait. Et au XIXe siècle, c'est l'ère des nationalités, c'est l'espoir de la patrie qui anime les artistes, et c'est la douleur de la patrie perdue aussi qui les fait souffrir, et Chopin au premier chef, bien entendu. Et au XXe siècle, évidemment, c'est encore bien pire, bien plus dramatique. Au fond, on va, au fur et à mesure qu'on avance, la tragédie devient plus terrible, plus douloureuse. Au XXe siècle, l'exil est forcé presque toujours, soit à cause du nazisme qui chasse les compositeurs juifs, pas seulement eux d'ailleurs, soit il s'agit d'un exil intérieur, comme pour certains compositeurs russes dont on parlera sans doute.
Alors, on va retrouver au début et à la fin de cette émission hors concours. Un homme d'exception qui considère que la musique est le seul pays et que lui seul la renouvelle, c'est Stravinsky. L'exil de Stravinsky, qui va devenir définitif avec la Grande Guerre et la Révolution russe, n'a pas commencé comme un exil. Il était, comme d'autres Russes, peintre, décorateur, musicien, emporté dans la caravane des ballets russes de Serge de Diaghilev.
Exactement, oui, il est parti de son plein gré et il pensait revenir et il a été surpris par la révolution en 1917 alors qu'il était en Italie ou en Suisse ou les deux. Et bon, il a décidé de ne pas rentrer, mais au fond il continuait à être un compositeur itinérant, ce qu'il était déjà depuis 1910.
Alors si vous le permettez, on va insister davantage que vous sur la Suisse. C'est votre pays, je crois.
Oui, absolument.
Alors, il est installé en Suisse. Il y a d'autres Russes, des ballets russes qui sont en Suisse à un moment. Mais lui,
Parlons de cela en particulier, va nouer une amitié assez inattendue avec un paysan vaudois, enfin un peu écrivain.
Un petit peu écrivain quand même, qui s'appelle Charles Ferdinand Ramus, effectivement. Et le fait est qu'ils se sont bien entendus durant le séjour de Stravinsky en Suisse, puisque plusieurs œuvres sont nées, des œuvres qu'on pourrait dire communes. Et l'œuvre commune principale, c'est bien sûr l'histoire du soldat.
Penser dans une auberge, disent les souvenirs de Ramus, autour d'une chopine fédérale. C'est Denis Lavant qui interprète ici le texte d'histoire du soldat, avec, permettez-nous d'être chauvin, l'orchestre de la garde républicaine à Paris. Rentrer, ne pas rentrer.
Entre d'Ange et de Neuzy, un soldat rentre chez lui. Quinze jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A beaucoup marché.
On va laisser un instant Stravinsky, on le retrouvera. On est toujours à cette date de 1917, où prend corps l'histoire du soldat. Et avec un autre personnage, ô combien différent, propriétaire terrien, installé un moment directeur du Bolchoï de Moscou, c'est Rachmaninov, qui est d'ailleurs beaucoup plus vieux que Stravinsky.
Absolument. Oui, il est pas d'une génération plus âgée, mais 10 ans en tout cas de plus.
Et lui, il se pose la question de rester ou de partir pour des raisons plus politiques que Stravinsky.
Oui, alors Rachmaninov, lui, a été d'abord adhéré à la révolution du printemps, si on peut dire, mais celle d'octobre a commencé à l'effrayer sérieusement, et il a profité d'une invitation à aller se produire comme pianiste en Suède, je crois, pour quitter la Russie, ce qu'il a fait définitivement.
Alors lui, il a des moyens. Je veux dire que l'interprétation qu'il multiplie dans des tournées, dans des concerts, lui fait gagner pas mal d'argent, qu'il redistribue d'ailleurs à ses compatriotes russes.
Oui, c'était un homme très généreux, effectivement, et il gagnait beaucoup d'argent en donnant des concerts. Et sinon, eh bien, donc il est parti pour la Suisse, lui aussi, a passé en Suisse un certain temps, et il est allé en France ensuite, et il est allé aux États-Unis.
Alors, est-ce que c'est aux États-Unis? Là, c'est en 1931. En tout cas, il a pris position de manière très véhémente contre Staline. Et voilà qu'il l'aperçoit dans la salle où il va donner un concert. C'est le passage d'un film récent sur Rachmaninov signé par Pavel Lungin, l'ambassadeur d'Union soviétique. Et alors, il se produit devant le rideau. Le rideau ne s'ouvrira pas dans ces conditions, dit-il.
Я покинул свою страну.
J'ai quitté mon pays.
Чтобы не служить новой страшной власти.
Pour ne pas servir ce régime affreux.
В зале посол Советской России.
Parmi les spectateurs, j'ai reconnu l'ambassadeur de la Russie soviétique.
Вы лично погубили многих близких мне людей.
Vous avez tué tant de mes proches.
Я не играл для вас в России.
Je n'ai pas joué pour vous en Russie.
Не буду играть
здесь в Америке. Je refuse de jouer pour vous ici en Amérique.
Не могу.
Je ne peux pas.
Извините.
Excusez-moi.
Сергей.
Сергей.
Vous dites que l'hostilité de Rachmaninov à la révolution bolchevique a commencé quand il a vu l'un de ses chiens dans sa propriété. tué par les paysans qui voulaient lui dire « c'est nous les maîtres maintenant ».
C'est nous les maîtres, exactement. Oui, c'est un de ces signes terrifiant qui n'a l'air de rien d'une certaine façon, mais qui faisait sentir à Rachmaninoff et à bien d'autres qu'il y avait un mouvement de fond qui allait l'emporter s'il restait dans sa propriété. Et bon, c'est pour cela qu'il est parti. Maintenant, le jugement sur la révolution s'est durci, disons, au fil des ans, parce que pendant un certain temps, les bolcheviks ont joué Rachmaninoff sans problème. Donc lui, je pense qu'il n'en était pas trop fâché malgré tout. Et puis il y a eu un moment où, dans la presse occidentale, Rabindranath Tagore a écrit un bel article à la louange des vertus éducatives de l'Union soviétique. Et là, Rachmaninoff a pris la plume pour dire « ce régime est le plus meurtrier qui ait jamais existé sur Terre, c'est monstrueux de le louer comme vous le faites, etc. » Et à partir de là, les bolcheviks l'ont boycotté. Et lui, évidemment, s'est senti encore plus exilé.
Alors, vous dites qu'il gagne de l'argent en jouant un peu partout, sa vie est confortable, son œuvre se raréfie à cause de l'exil ?
C'est toujours très difficile d'en juger, parce qu'après tout, on ne sait pas ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été exilé. Peut-être que son inspiration se serait tarie quand même, il était quand même déjà assez âgé quand il est parti pour l'exil. Mais tout de même, on a de lui de nombreuses déclarations qui disent à chaque fois « ma terre me manque, c'est ma terre qui me nourrit, et loin de ma terre, je n'arrive plus à trouver l'inspiration ». En fait, il l'a tout de même retrouvé, en tout cas pour une œuvre qui compte parmi ses meilleures, les meilleures de tout son catalogue, qui est la Rhapsodie pour piano orchestre sur un thème de Paganini, qui est pleine de vie, pleine d'énergie, pleine de variété, de diversité. C'est un jeune Rachmaninoff, tout à coup, qui écrit
là,
cela.
Vous l'auriez voulu dans une version avec une pianiste pour laquelle vous avez de l'affection.
Oui, alors effectivement, Yuja Wang a interprété pour le disque avec Claudio Abbado cette rhapsodie.
Oui, alors je sais que cette pianiste est à la base d'un roman en forme de dialogue que vous avez publié, Piano Chinois. Oui, mais nous avons voulu constater que l'orchestre philharmonique de Moscou, et Moscou c'était l'ennemi de Rachmaninoff, avait fini par le récupérer. Et voici une version dirigée par Kirill Kondrachin avec Van Kinberg.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Étienne Barillet, à la veille de la folle journée de Nantes, qui va être consacrée sur plusieurs journées, bien sûr, à l'exil, à l'embarquement pour un monde nouveau, vous publiez chez Fayard un livre sur la musique et sur l'exil. Alors, autre cas de figure, reprenons le même point de départ, 1917-1918, puisque nous parlons des compositeurs russes, c'est Prokofiev. Alors, Prokofiev, lui, il aurait bien voulu faire partie de la caravane des ballets russes et embarquer avant même 1914 ou 1917 en Europe, mais Diaghilev refusait ces propositions.
Oui, d'ailleurs, ça pourrait être une des raisons qui en fait qu'il a voulu regagner la Russie, c'est qu'il se sentait un rival malheureux de Stravinsky. Mais donc il se trouve que Prokofiev, en 1918, a quitté, mais avec la bénédiction de Lunatcharsky, qui était le commissaire
du peuple, à la culture,
oui, il a quitté ce qui était déjà l'URSS, et il a vécu en France.
Il n'allait pas en Suisse tellement, lui.
Non, je ne crois pas. Désolé pour moi.
Alors, il allait en France, mais il allait aussi bien aux
États-Unis. Absolument, aux États-Unis.
À Berlin.
Il bougeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il avait vraiment la bougeotte.
Mais alors, Paris, selon sa femme, Lina, Oui. C'est une Espagnole, d'origine.
Elle est de père espagnol et de mère russe, ou l'inverse, tout à coup, je ne sais plus.
Et c'est une chanteuse.
Oui, tout à fait.
Et donc, elle s'attache au pas de Prokofiev, ce qui n'est pas très très facile.
Après le calme des montagnes d'Étale, ce fut le tourbillon de la vie musicale de Paris. Nous y rencontrâmes beaucoup de musiciens, parmi eux des amis, compositeurs français, Auric, Millau, Poulenc, Sauguet, les six en somme. Le compositeur polonais Szymanowski, le pianiste Arthur Rubinstein, les violonistes Sigeti, Kochanski, les peintres Larionov et Gonciarova, et bien d'autres. Cette période de ma vie, une des meilleures peut-être, est liée avec Paris, avec la France.
Je dois rentrer en Russie.
Mais tu es fou, pourquoi ?
Mes émotions sont là-bas, donc mon inspiration.
Sergueï, c'est toi qui as voulu venir à Paris. Londres, l'Amérique, c'est toi qui as toujours voulu.
Mais j'avais peur que la révolution me gêne dans mon travail, mais ici c'est mon travail qui devient une gêne. Toute cette sophistication parisienne me vide. Je t'assure, rentrons. Là-bas, nous mangerons du gâteau au pavot, des concombres et des radis à la crème.
Tu ne penses qu'à bouffer.
Mais où as-tu mis les valises?
Oh non, Sergueï, oublie.
Lina fait les valises. Même la cuisine soviétique, pour le gastronome qui était Prokofiev, était considérée comme supérieure à la gastronomie française. Et il va être reçu, quand il revient définitivement en 1936, comme le fils prodigue. On va tuer le veau gras et il va connaître un certain nombre de triomphes. Le voici qui interprète à Moscou en 1937 l'ouverture sur des thèmes juifs. Très vite ensuite, pour Prokofiev, régime sec.
Oui, l'idylle n'a pas duré longtemps, effectivement. Les persécutions mentales, morales ont commencé. Sa femme décrétait illégaux tous les mariages avec des étrangers ou des étrangères. Lina était considérée comme une étrangère, donc le mariage était nul. Donc Prokofiev, qui avait pour maîtresse une certaine Mira Mendelssohn, l'a épousée. Et quelques jours après ce deuxième mariage, Lina Prokofieva a été arrêtée, conduite à la Loubianka, interrogée, accusée de traîtrise, d'entente avec l'ennemi capitaliste, etc., etc. Et on sait depuis assez peu de temps, parce qu'elle-même n'en avait pas parlé, qu'elle a subi dans les prisons soviétiques, enfin, des traitements inhumains et dégradants, et qu'elle a avoué tout ce qu'on voulait pour qu'on la laisse tranquille. Et puis ensuite, elle est partie pour le goulag. dont elle n'est rentrée qu'au dégel khrouchtchevien en 1956.
Et elle n'a pu quitter l'Union soviétique qu'en 1974. L'entretien qu'on entendait avec elle, où elle parlait de sa période pimpante à Paris, date d'après son retour en France. L'autre épouse, Mira, a connu un sort un peu moins douloureux, mais s'est retrouvée aussi condamnée au camp de travail.
Oui. Et quant à Prokofiev, il a dû vraiment passer sous les fourches caudines. Quand il y a eu l'époque du jdanovisme, c'était peut-être encore pire, en 48. Et il a dû signer des espèces de confessions pour dire que sa musique n'était pas assez mélodieuse. Et sa création en a quand même beaucoup souffert. Il a aussi écrit des odes à Staline. Néanmoins, il a pu, pendant sa période soviétique, écrire quelques très belles œuvres. Et pour moi, les plus belles de toutes, c'est peut-être les sonates pour piano qu'on appelle les sonates de guerre, la 6e, 7e et 8e, qui sont du vrai Prokofiev.
Supérieure, en effet, à la rencontre entre la Volga et le Don, qui est un hymne aux canalisations forcées de Staline, qui meurt, dernière malchance de Prokofiev, le même jour que lui.
Voilà, exactement. Et pas de fleurs pour Prokofiev, parce qu'il n'y restait
plus de fleurs chez les fleuristes.
Voilà. Et puis rien dans la Pravda, bien entendu. Un autre filet, 3 jours après.
C'est l'occasion de réfléchir sur l'exil intérieur, qui est une des lignes mélodiques de votre ouvrage.
Oui. Peut-être que l'exemple qu'on pourrait donner d'exil intérieur, même si Prokofiev en est un terrible exemple, c'est Shostakovich, parce que Shostakovich n'a jamais connu l'Ouest, si on peut dire, et il était très jeune, enfin il était même un enfant à la Révolution, et il a commencé lui aussi par être bien vu, ses premières œuvres ont été bien accueillies, et puis peu à peu l'étau s'est resserré, et il Shostakovich a subi des contraintes tout à fait comparables à celles que Prokofiev a pu subir. Alors chez lui, je dirais, c'est très étrange parce que Prokofiev, il a, je dirais, une mauvaise musique d'un côté et une très bonne de l'autre. Chez Shostakovich, j'ai l'impression que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que dans ses œuvres les plus grandioses, on a toujours l'impression qu'on tombe dans le pompier ou presque dans le monstrueux. On ne sait pas si on est dans le triomphe ou dans la catastrophe. Pour moi, c'est une musique schizoïde ou même schizophrène. Et ça, c'est l'effet, bien sûr, de l'oppression qu'il subissait. On sent qu'une oppression presque physique peut marquer une œuvre et peut infléchir une inspiration, vraiment.
Chose promise, chose due. 1940, pendant que Prokofiev est peu à peu claquemuré, les musiciens russes qui s'étaient réfugiés en Europe sont obligés d'aller plus loin. S'ils n'ont pas déjà rejoint les États-Unis, ils vont se retrouver peu à peu à... Vous ne dites pas Sunset Boulevard, mais Europe Boulevard. Vous ne dites pas la Grosse Orange pour la région de Los Angeles, mais la Nouvelle Europe, comme il y a eu une Nouvelle Athènes. Ce sont d'ailleurs souvent, expliquez-vous, les musiciens n'aimant pas toujours se fréquenter entre eux à cause de leurs différences artistiques, les épouses qui jouent le rôle de trait d'union entre les uns et les autres. Celle-ci, c'est Madeleine Millot. Madeleine Millot qui a poussé son époux, Darius, a quitté la France.
Madeleine Millot, qui avez-vous rencontré aux États-Unis?
Kurt Weill, qui était un ami depuis 1933 et qui nous attendait quand nous sommes arrivés. Alors lui, c'était totalement américanisé en très peu de temps. C'était extraordinaire.
Vous voulez dire qu'il composait de la musique américaine?
Transformé presque, tout à fait. Parce que Kurt Weill a toujours été au fond sensible au pays où il était. Et ça se ressentait parfois dans ses musiques. Au fond, il a eu subitement le désir de devenir le compositeur américain de Broadway. Remarquez que je crois qu'on devient, on appartient à un pays, si on est préparé, si on le désire avant qu'on le soit.
Madeleine Millot, et Stravinsky, sa musique a-t-elle changé, elle aussi, au contact avec les États-Unis?
Stravinsky est toujours resté Stravinsky. Bien qu'il ait eu la proposition, quand il est devenu américain, quand il a signé, je pense, pour prouver qu'il était devenu un citoyen américain parfait, que le juge lui a demandé, et maintenant lui a dit tranquillement, proposez de maintenant, vous pouvez changer votre nom. On imagine ça assez mal. Il a d'ailleurs assez mal pris.
Alors c'est intéressant la comparaison entre les deux et l'insistance sur la ductilité de Kurt Weill. Important pour votre réflexion sur Exil et musique.
Oui, tout à fait. Kurt Weill s'est admirablement adapté à New York. Il a créé presque la comédie musicale américaine. Enfin, il y avait Gershwin avant lui, par exemple. Mais enfin, il a vivifié ce genre. Mais en même temps, il faut pas oublier que le Kurt Weill allemand introduisait déjà, accueillait déjà le jazz dans sa musique. Et donc la métamorphose musicale n'est pas si grande qu'on peut le croire, même si en effet, il avait une souplesse extraordinaire et il a compris les codes de la comédie musicale américaine de façon admirable.
Le jazz n'a pas touché Rachmaninoff, qui était lui aussi aux États-Unis.
Écoutez, dans la Rhapsodie sur un thème de Paganini, il y a presque des petits échos de jazz quand même. Mais effectivement, il n'y a pas de comparaison possible. Mais il a touché Stravinsky, ou plus exactement, Stravinsky a touché au jazz et on a fait du Stravinsky. Il y a le Ebony Concerto qu'il a écrit justement pendant son exil à Los Angeles, qui est du jazz à la puissance Stravinsky, qui est l'essence du jazz d'une certaine manière, mais c'est du pur Stravinsky. C'est vraiment son génie, il arrive à s'accaparer toutes les musiques.
Si on avait entendu plus longuement le témoignage de Madeleine Millot au micro de Cécile Gilly, c'était en 1991 sur Culture, on l'aurait entendu dire que Stravinsky à Los Angeles ne fréquentait pas Schoenberg, l'autre étoile symétrique, si je puis dire, qui se retrouvait aussi exilé.
Stravinsky et Schoenberg, en effet, ne se regardaient, ne s'écoutaient, ni ne se regardaient, se tournaient le dos, mais il se trouve qu'ils ont quand même collaboré à la même œuvre.
Alors, vous racontez ça longuement, c'est une histoire intéressante et pas si connue.
Oui, alors c'est un producteur et compositeur américain qui s'appelait Shilkret qui a proposé à un certain nombre de compositeurs de faire une œuvre collective sur la Genèse. L'œuvre s'appelle Genèse et chaque compositeur devait illustrer un épisode de cette Genèse.
Mais alors j'imagine qu'on a mis Schoenberg assez loin de Stravinsky.
On les a mis aux deux extrémités, si on peut dire, de l'œuvre, comme par hasard. Et d'ailleurs, quand l'œuvre a été créée, ils étaient chacun à l'extrémité d'un rang dans le théâtre où ça a été créé. Mais leurs contributions sont tout à fait remarquables et sont du pur Schoenberg et du pur Stravinsky.
And the whole earth was of one language and of one speech.
Millot approfondit son appartenance à la société juive à Los Angeles et cette œuvre commune. Elle est aussi dédiée aux juifs persécutés.
Oui, absolument. C'était d'ailleurs l'idée de Shilkret au départ. Et tous les contributeurs sont juifs, sauf Stravinsky. Mais Stravinsky était profondément croyant orthodoxe. Et pour lui, la Bible, c'était sacré, si vous me permettez. Donc, il n'y a pas de discordance, il n'y a pas d'absurdité à ce que Stravinsky ait participé à cette œuvre, loin de là.
And they said one to another, go to, let us make bricks and burn them thoroughly.
La partie finale s'appelle Babel, c'est celle qui est l'œuvre de Stravinsky. Oui. Babel, c'était plutôt le pays que reconnaissait Stravinsky, puisque la musique était son seul pays et que le nationalisme ne le caractérisait certes pas. Alors tous ces thèmes que vous avez développés dans ce livre, Fayard, Mirard, Exil et musique, ils seront débattus et surtout exemplifiés pendant la folle journée de Nantes, dont le thème, je le rappelle, est Exil ou plutôt embarquement pour un monde nouveau. La marche de l'histoire a été préparée par Ilinka Negulesco avec Kevin Pelot à la technique et à la réalisation Audrey Ripouille. Alors demain, nous recevrons encore un Suisse, décidément, le grand journaliste suisse Jacques Pilet, qui nous entretiendra de la question de la votation en Suisse sur la fin de la redevance et donc de l'audiovisuel public.